Et le journal est présenté par Antoine Geoffin. Bonjour Antoine.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
C'est moi qui commence. Alors, la Catalogne sous haute tension, 5 jours après la condamnation de plusieurs leaders indépendantistes. Mobilisation de masse hier à Barcelone.
Un demi-million de personnes dans les rues, dit la police. Des feux et des barricades sur les Ramblas. Thibault Lefebvre nous fera vivre la soirée avec les émeutiers.
Au Royaume-Uni, journée sous haute tension également à la Chambre des communes.
Oui, les parlementaires doivent dire oui ou non à l'accord sur le Brexit conclu par Boris Johnson avec Bruxelles cette semaine. Après des mois de report du Brexit, les Britanniques n'en peuvent plus. Reportage à Londres d'Antoine Gignot. En France, une mère va porter plainte contre 2 ministres pour exiger le rapatriement de sa fille. Partie rejoindre Daesh, cette femme est retenue par les Kurdes en Syrie avec ses 4 enfants. Samuel Monod nous en dira plus.
Nous entendrons également Anthony Blinken. Cet ancien conseiller de Barack Obama est très critique vis-à-vis de l'actuel cessez-le-feu et il juge durement les décisions du président Trump à ce sujet.
Dans ce journal, nous reviendrons aussi sur la condamnation des époux Balkany pour blanchiment de fraude fiscale. Florence Turm était à l'audience. Caroline, l'invitée de la deuxième heure.
Et l'invitée est une intellectuelle et essayiste tunisienne, Elle Bedji, ancienne fonctionnaire internationale à l'UNESCO, fondatrice du Collège international de Tunis. Elle publie « Dommage Tunisie » dans la collection Tract de Gallimard. Et il y a une petite dizaine d'années, elle a également publié un livre sur le voile. Voilà les sujets dont nous parlerons donc, Antoine. Il y a 5 jours, plusieurs leaders indépendantistes catalans étaient condamnés à des peines de prison pour sédition et hier soir, la contestation populaire a franchi un cap, notamment à Barcelone.
Oui, 1,5 million de Catalans ont défilé dans la capitale catalane, une véritable démonstration de force pour les indépendantistes qui s'est terminée dans le chaos et la violence avec 100 d'interpellations, plus de 200 policiers blessés. Thibault Lefebvre, vous avez passé la soirée avec les émeutiers.
Des émeutiers très jeunes, habillés en noir et masqués, qui ont défié les forces de l'ordre. Martha et Albert fuient une charge policière. Toute la soirée, ils ont lancé des pierres et enflammé des barricades.
Tu la vois où la violence ? Je la vois du côté de la police, des deux polices, la police nationale espagnole et la police catalane. Elle est là, la violence.
Ce n'est pas un combat pour l'indépendance, c'est un combat contre le fascisme.
Et aussi un combat de classe.
Derrière les quelques dizaines d'émeutiers anti-système, des milliers de militants indépendantistes venus des 4 coins de la Catalogne pour manifester. C'est le cas de Gina, 20 ans, drapeau bleu, rouge et jaune sur les épaules. Elle avoue, par moments, avoir eu très peur.
Il y a 2 groupes, et tu dois savoir avec quel groupe tu te trouves. Nous, nous sommes ici avec les manifestants, et là-bas, il y a ceux qui veulent en découdre avec la police. Ce sont des gens qui ont laissé derrière les valeurs catalanes pour s'opposer à la police et ne plus suivre les objectifs que nous partageons tous.
Le calme est revenu dans la nuit. Le cœur touristique de Barcelone est désormais ravagé avec du mobilier urbain à terre et des dizaines de vitrines brisées.
Reportage à Barcelone, Thibault Lefebvre. Pas de week-end pour les députés britanniques. Pour la première fois depuis la guerre des Malouines, les parlementaires vont siéger un samedi. Ils ont rendez-vous à 10h30, heure de Paris, pour une session exceptionnelle consacrée au Brexit et à l'accord négocié par Boris Johnson avec Bruxelles cette semaine. Pour le mettre en place, le Premier ministre a besoin de le faire valider par les élus. Pas facile, il n'a pas la majorité à la Chambre des communes. Résultat, les Britanniques, pro et anti-Brexit, retiennent leur souffle encore une fois. 3 ans de débat, 3 rejets de l'accord de Theresa May par les députés. Et si les deux camps ont des attentes diamétralement opposées, tous deux espèrent que le feuilleton va s'arrêter. Le reportage d'Antoine Gignot à la descente de l'Eurostar à la gare de Saint-Pancras.
Egon et Brady sont retraités, elles ont toutes les deux de la famille en France, mais l'Europe, elle n'y croit plus, et ce vote des parlementaires, c'est pour elles la dernière chance de respecter le résultat du référendum de 2016.
On a attendu tellement longtemps, il y a eu tellement de propositions rejetées, il est vraiment temps qu'on quitte l'Europe. On essaye de nous empêcher de sortir, mais il y a eu un vote démocratique, et on a voté pour partir.
Derrière elle, Dave, responsable de la communication d'une grande entreprise, revient de Paris, il hésite entre colère et ricanement. Nerveux.
L'ignorance et des mensonges, voilà tout ce que le gouvernement britannique nous apporte. C'est stupide, stupide, c'est juste une énorme blague.
Une blague qui ne fait plus vraiment rire face au micro. Beaucoup de Britanniques ne veulent même plus parler du Brexit. Le dernier sondage YouGov montre que 2 personnes sur 5 demandent aux parlementaires de valider l'accord négocié par Boris Johnson. 1 sur 5 espère qu'ils voteront contre. Les autres ne savent pas quoi penser, mais presque tous partagent l'opinion de Becky, Turquie. Elle espère une décision, n'importe laquelle, parce que, dit-elle, le sujet devient douloureux et embarrassant.
Reportage d'Antoine Gignot à Londres. Information de la nuit. Au Chili, l'état d'urgence déclaré à Santiago par le président Sebastián Piñera. Des émeutes ont secoué la capitale hier. Forces de l'ordre et manifestants se sont violemment affrontés. Ces Chiliens protestaient contre l'augmentation des prix des transports.
L'appel à l'aide de Pascal Descamps, sa fille partie rejoindre Daesh en 2015, est retenue depuis 8 mois dans le camp d'Alol avec ses 4 enfants en bas âge.
Alol, nord-est de la Syrie, contenu par les Kurdes et menacé par l'offensive turque sur la région. Avec cet assaut, la situation sur place s'est aggravée. Et pour faire avancer les choses, Pascal Descamps va saisir la Cour de justice de la République contre 2 ministres, Nicole Belloubet et Jean-Yves Le Drian. Les précisions de Samuel Monod.
Depuis le début de l'offensive turque, la vie s'est durcie dans le camp tenu par les Kurdes. Peu de nourriture, raconte Pascal Descamps, qui a parlé avec sa fille. Les ONG se sont retirées des zones militarisées en manque de soins. Des bombardements auraient touché des citernes d'Alol et l'eau, déjà peu disponible, l'est encore moins et souvent contaminée. Beaucoup d'enfants tombent malades. Outre l'urgence sanitaire, c'est la sécurité qui inquiète la jeune grand-mère.
Les ONG comme Human Rights Watch et l'UNICEF nous ont dit de dire à nos filles de surtout que s'il y avait une débâcle ou que les Kurdes se désister de leur rôle de garde, et bien qu'elles restent dans les camps à attendre les Turcs, de ne pas aller dans la nature parce qu'il y aurait des gens de Daesh, mais il y a aussi des milices, il y a des gens qui cherchent à faire de l'argent, qui revendraient des femmes. Mes petits-enfants n'ont rien à faire là-bas. Hein.
Le cessez-le-feu dans la région, c'est une opportunité justement de rapatrier sa famille. Il y a urgence, insiste son avocat Emmanuel Daoud. Il va saisir la Cour de justice de la République et porter plainte contre Jean-Yves Le Drian et Nicole Belloubet pour omission de porter secours.
Il faut que ces ministres sachent qu'ils porteront personnellement la responsabilité juridique, morale du décès du moindre enfant français dans ces camps. Ils ont pour le moment fait le choix du déshonneur, de l'indignité et aussi celui de ne pas respecter le droit européen et le droit international et les conventions internationales qui ont été ratifiées par la France. Il ne faut pas, parce que ces enfants sont à des milliers de kilomètres, que nos responsables politiques fassent le choix, encore une fois, de la lâcheté.
Depuis juillet, 11 familles de djihadistes ont déjà porté plainte contre le ministre de la Défense pour omission de porter secours.
Samuel Monod, et cette trêve dont on parlait à l'instant apparaît bien fragile malgré sa mise en place. 14 civils et 8 combattants kurdes ont été tués hier. Ce cessez-le-feu doit durer 5 jours, mais visiblement il n'est pas complètement respecté. Jeudi soir, après l'annonce de la cessation des hostilités, Donald Trump parlait pourtant d'une grande victoire pour les États-Unis, pour la Turquie et pour les Kurdes. C'est tout le contraire, dit Anthony Blinken, qui fut le principal conseiller en politique étrangère de Barack Obama. Aujourd'hui, il conseille le candidat démocrate Joe Biden sur les questions internationales. L'ancien numéro 2 du département d'État à la fin de la présidence Obama parle même de catastrophe.
Des centaines de personnes ont déjà été tuées. Des Kurdes ont été chassés ou risquent d'être chassés des territoires au nord de la Syrie. Il y a une crise humanitaire très prononcée. Turquie gagne exactement ce que Turquie a voulu gagner, sans sanctions, sans rien. Tout ça parce que le président Trump s'est décidé, après un coup de fil avec le président Erdogan de la Turquie, sans demander conseil à nos militaires, à nos diplomates, à nos alliés, a décidé de retirer ce petit nombre d'Américains qui, en fait, était une garantie pour qu'il n'y ait pas de guerre entre Turcs et Kurdes au nord de la Syrie. C'est une tâche profonde pour les États-Unis. Non, c'est un débâcle, en fait.
Anthony Blinken au micro de Grégory Phillips. En Afghanistan, l'attentat d'hier dans une mosquée a fait au moins 62 morts et 33 blessés. Dernier bilan officiel. Selon les autorités, des explosifs avaient été placés à l'intérieur du bâtiment. L'attaque n'a pas été revendiquée.
France Culture 8h09, suite du journal Antoine Geoffin.
Patrick et Isabelle Balkany ont décidé de faire appel après leur nouvelle condamnation hier par le tribunal correctionnel de Paris. Condamnation pour blanchiment de fraude fiscale, mais ils ont été relaxés pour les faits de corruption. 5 ans de prison avec un nouveau mandat de dépôt pour Patrick Balkany. 10 ans d'inéligibilité et confiscation de leurs biens immobiliers. Il n'était pas présent, ayant refusé de sortir de sa cellule. Isabelle Balkany est quant à elle condamnée à 4 ans de prison ferme, également 10 ans d'inéligibilité. Mais elle n'est pas incarcérée. Florence Turm a suivi l'audience.
Le tribunal n'a pas retenu le délit de corruption soutenu par l'accusation. Les époux Balkany, l'avocat Arnaud Claude, Jean-Pierre Aubry, le fidèle bras droit du maire de Levallois et l'homme d'affaires saoudien Mohamed Al-Jaber sont donc relaxés pour cette partie du dossier centrée sur le projet immobilier avorté des tours de Levallois et l'achat du riad de Marrakech. En revanche, Patrick et Isabelle Balkany sont à nouveau condamnés à des peines de prison ferme. 5 ans pour lui, 4 ans pour elle, ce que dénonce l'avocat Éric Dupond-Moretti.
Je dis qu'on s'est payé Balkany. En termes de quantum de peine, c'est quelque chose d'absolument monstrueux. C'est du jamais vu, c'est un record. On a atteint et même dépassé des sommets. Et moi, j'estime qu'une décision de cette nature, ça déchire aussi le pacte républicain, pour reprendre les mots du jugement.
Déchirure du pacte républicain, le président du tribunal a effectivement repris les termes du premier jugement pour qualifier l'attitude de Patrick et Isabelle Balkany. Certes, pas de détournement d'argent public, comme le souligne leur défense, mais un enrichissement personnel intolérable au corps social, car commis par des personnes choisies par le suffrage universel. La réponse pénale se devait d'être ferme et dissuasive, expliquent encore les juges, mais elle n'est pas définitive. Les époux Balkany ont aussitôt fait appel. Il y aura donc un second procès.
Florence Turme, un rassemblement citoyen s'est tenu hier à Dijon, devant le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Une semaine après le déclenchement de cette polémique par un élu Rassemblement National, il demandait à une femme dans le public de retirer son voile. Invité du grand reportage de France Culture hier, le ministre de la Ville, Julien Denormandie, a livré son sentiment sur la question.
Ce que je trouve extrêmement essentiel dans notre République, c'est qu'il y a des libertés. Et que ces libertés, elles sont définies par la loi. Et qu'en France, sur la question du voile, on a plusieurs lois. On a d'abord cette loi de la laïcité, l'une des plus grandes lois de liberté, la liberté de croire ou de ne pas croire. Et puis ensuite, vous avez eu des lois en 2004, en 2010, qui ont encadré notamment le port de signes religieux. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut juste faire appliquer la loi. Et surtout, il ne faut pas stigmatiser les uns ou les autres, parce qu'il ne faut pas se tromper de combat. Le combat, quel est-il aujourd'hui? C'est pas le combat du voile, ce n'est pas le combat contre une religion, c'est le combat contre le dévoiement par certains d'une religion. Et un dévoiement qui peut amener à ce qui peut avoir de pire, c'est-à-dire soit un islamisme politique, soit jusqu'à des attentats que nous vivons encore dernièrement dans notre pays. Mais le combat, il est là, il est contre ce dévoiement. Donc il faut respecter ce cadre de liberté que nous permet notre pays en appliquant pleinement cette loi de 1905. Et puis, il faut respecter chacun dans sa différence en ne se trompant jamais de combat. Le combat, il n'est pas contre une religion, il est contre le dévoiement de cette religion par certains. Je crois que c'est très important de le redire.
L'entretien complet de Julien Denormandie avec Aurélie Kiefer est à retrouver sur franceculture.fr sur la page du grand reportage consacré à la médiation en milieu scolaire. On parle de ce sujet dans quelques minutes avec l'invité de Caroline Brouet sur ce plateau, l'écrivain Elle est BJ. Vous avez peut-être été démarché au téléphone par Engie. Eh bien, sachez que le fournisseur de gaz et d'électricité est condamné pour démarchage abusif. Il doit payer une amende de près de 900 000 euros. Les agents de la répression des fraudes lui reprochent de ne pas avoir respecté ses obligations réglementaires. Les faits en question ont été identifiés en Île-de-France, Anne-Laure Jumet.
Ce sont les consommateurs qui ont donné l'alerte. Entre juin 2017 et février 2019, de nombreuses plaintes sont ainsi enregistrées dans le département des Hauts-de-Seine. Ces consommateurs se retrouvaient liés par un contrat avec Engie juste après un démarchage téléphonique, alors que l'offre n'avait pas été transmise ensuite par lettre ou par courrier électronique. Et si certains voulaient se rétracter, ils se voyaient opposer dans un certain nombre de cas une fin de non-recevoir. Comme d'autres dans ce secteur, ce fournisseur d'énergie passe par des prestataires rémunérés à la commission, ce qui peut expliquer que ces derniers outrepassent parfois les règles pour signer le maximum de contrats. Engie avait déjà été condamné en mars dernier à verser 1 million d'euros de dommages et intérêts, son concurrent EDF l'ayant accusé d'avoir utilisé son nom pour démarcher des clients. Engie avait alors rappelé que les réclamations représentaient moins de 0,2% des ventes depuis janvier 2018. De leur côté, les services de la répression des fraudes appellent à la vigilance, alors que de plus en plus de Français sont démarchés dans le secteur de l'énergie. L'an dernier, ils étaient 56% à avoir été contactés pour changer d'opérateur, une hausse de 20 points en seulement un an.
Anne-Laure Jumet, les agriculteurs de Seine-Maritime, de l'Oise, du Nord, de la Somme et de l'Aisne peuvent être soulagés un peu ce matin. Ils vont de nouveau pouvoir vendre leur miel, leurs œufs, leurs légumes, leurs poissons. Le ministère de l'Agriculture lève les interdictions. Elles avaient été déclarées après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. Le temps de votre samedi, c'est bien gris et pluvieux ce matin, sauf dans le sud-ouest, à Marseille, en Corse et dans le Pas-de-Calais. Le soleil percera cet après-midi dans le ciel picard et parisien. Côté mercure, la minimale ce matin, c'est pour Rouen, 11 degrés. La maximale, cet après-midi, 23 à Ajaccio.